Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Manifestation anti-MONUSCO, la situation tendue hier à Butembo. Au menu du dernier Conseil des ministres, le président de la République appelle la population au calme tout en instruisant les autorités à protéger le personnel de la MONUSCO congolais comme expatrié. Journée internationale de la jeunesse, c'était hier 12 août. À l'occasion, des centaines de jeunes de Bounia ont réfléchi hier autour de l'ONG Les Rebâtisseurs sur des voies de sortie du manque d'emploi et de l'instabilité des jeunes due à l'activisme des groupes armés, notamment en Ituri. À Bukavu, le ministre provincial des Mines, Ressources hydrauliques et Hydrocarbures du Sud-Kivu annonce la création d'un nouveau service dénommé Régie provinciale de services publics de l'eau dans le Sud-Kivu. C'était lors d'un point de presse tenu jeudi à Bukavu. Coco Tchirimwa Miakim est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. La situation sécuritaire tendue à Butembo hier à la suite d'un regain de violence contre la MONUSCO a été entre autres abordée au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue hier à Kinshasa. Le président de la République a dénoncé l'attaque dont les policiers ont été l'objet hier à Butembo de la part des présumés Mai Mai. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi appelé la population au calme tout en instruisant les autorités à protéger le personnel de la MONUSCO congolais comme expatriés afin de leur permettre de faire correctement leur travail. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, extrait choisi par Alain Rongmushinj.
Avant d'entamer sa communication, le président de la République, chef de l'État, a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Butembo, consécutive à un regain de violence contre la MONUSCO. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Mai Mai et autres victimes. Attaque qui a conduit à la mort de 4 vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie des véhicules. Le président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la MONUSCO, aussi bien congolais qu'étranger, pour faciliter la mission de cette organisation. Le président de la République s'est dit aussi préoccupé par les tensions vécues il y a quelques jours dans la province de Maïndomé entre les communautés Yaka et Teke. Le gouvernement a aussi été encouragé à prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour amener la sérénité dans cette partie du territoire.
Par ailleurs, la MONUSCO condamne vigoureusement le regain de violence à Butembo et exprime sa solidarité aux autorités congolaises à la suite de l'assassinat des agents de forces de défense et de sécurité et de la population civile dans la ville. C'est ce qu'indique le communiqué publié vendredi 12 août. La mission est extrêmement préoccupée par l'hostilité grandissante, les menaces contre la population, les agents assermentés et le personnel des Nations Unies. Elle déplore également les nombreux actes de vandalisme constatés sur place, indique le communiqué. La MONUSCO appelle à l'apaisement et à la responsabilité tous les acteurs politiques et de la société civile, les autorités coutumières et religieuses et les populations locales pour le rétablissement de la loi et de l'ordre à Butembo. La mission onusienne réitère sa détermination à assurer son mandat de protection des civils et de soutien aux forces de défense et de sécurité congolaises. Entre-temps, sur le terrain à Butembo, un calme apparent est observé ce samedi au lendemain des échauffourées qui ont opposé les services de sécurité à un groupe de jeunes armés assimilés au Mai Mai hier à Kangote, à la sortie nord de la ville. Cependant, des coups de balle ont retenti pendant plusieurs heures depuis tôt le matin de ce samedi à Furu, dans le quartier Congo Yasika, commune Vulamba. C'était pour dégager les barricades placées nuitamment sur le boulevard. Le chef du quartier Congo Yasika, Pascal Mazing Mabali, qui s'en inquiète, rapporte que depuis hier, plusieurs ménages de Furu n'ont pas pu se ravitailler en vivres suite aux crépitements qui ont duré toute la journée jusque tard dans la soirée. Faisons le point avec Alain Rongmushinj.
Ce samedi matin, des barricades sur le boulevard et quelques artères secondaires ont été placées par des groupes de manifestants en dépit d'une pluie qui a arrosé la ville pendant plusieurs heures depuis très tôt le matin. Au niveau de Fourou, à la sortie nord de la ville, le feu a même été allumé sur le macadam. Les services de l'ordre y déployés ont tiré plusieurs coups de sommation pour dégager la route en vue de permettre le passage aux voyageurs qui empruntent la route Boutembo-Béni. Le commandant urbain des FARDC, le colonel Mosebo et Papé indique toutefois qu'un échange des tirs a eu lieu entre ces éléments et un groupe de jeunes en tenue civile et munis d'armes à feu près du parking La Victoire. Le chef du quartier Congo Yassika, Pascal Mazing Mabaliko, qui se dit très préoccupé, rapporte que plusieurs ménages n'ont pas à manger depuis vendredi matin suite à cette situation. Rappelons que 4 policiers ont été tués et 4 autres blessés, ainsi que 3 jeeps de la police incendiés à la barrière de Kangote par des jeunes armés assimilés au Mai Mai. De son côté, le bureau du quartier Congo Yassika a été saccagé par des manifestants, déplore le chef du dit quartier. Pendant ce temps, vers la fin de l'après-midi du même vendredi, un militaire FARDC a été tué et son arme emportée par un groupe des jeunes manifestants au niveau du cap Kalimbouté, vers le côté sud de la ville, dans la commune de Moussoussa.
Pour l'instant, difficile de savoir la vraie cause des manifestations actuelles dans la ville. D'après des témoins, certains manifestants exigent le départ de la MONUSCO, d'autres s'insurgent contre l'intervention tardive des services de sécurité lors de l'attaque ADF de la prison centrale de Kakwangura mercredi dernier, d'autres encore s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'inefficacité de l'état de siège. Rendons-nous au Kasaï oriental. Fin hier, à Mbujimayi, de la mission des autorités de l'Alliance nationale des chefs traditionnels du Congo, ANATEC, conduite par le grand chef traditionnel du groupement de Wilumba du territoire de Befale dans la province de la Tchouapa. Cette délégation est allée consoler la famille de leurs défunts collègues et présenter officiellement aux autorités le vice-président national par intérim. D'autres détails avec Esther Ndalafina.
D'après les chefs de mission, le grand chef traditionnel du groupement Wilumba du territoire de Befale, la délégation a d'abord déposé la gerbe de fleurs à Benakabeya après avoir consolé la veuve et les orphelins de la part de Sa Majesté Mwami Munongo Mwenda Bantu. Compte tenu des pommes de discorde autour de la succession du feu Polycarpe Kayembe, la délégation a recommandé à la famille du défunt d'user de la sagesse pour régler pacifiquement cette question selon les règles coutumières. Avant de quitter la ville de Mbujimayi, la délégation a présenté officiellement aux autorités provinciales et traditionnelles le vice-président national AI de l'ANATEC, le député provincial et grand chef Roger Kabeya Chimbundung Kulu de Benambouyi du secteur de Chichiba dans le territoire de Miabi, qui remplace le feu grand chef Polycarpe Kayembe Benankuna de Bakwanga, décédé le 26 juin 2002 à Kolwezi dans le Lualaba. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka dans le territoire de Kwamout au Maïndombe. Le gouverneur intérimaire appelle les uns et les autres au calme et à tout faire pour que la paix revienne dans ce coin du pays. Dans une interview à Radio Kapi hier, Maître Jax Mbombaka a déclaré que tout Congolais est libre de vivre partout où il veut, d'où les Teke sont appelés à accepter les Yaka et ces derniers doivent respecter certaines lois établies, dit-il. À l'occasion, il a appelé la haute hiérarchie à renforcer la province en effectif militaire afin de maîtriser la situation. Le gouverneur intérimaire de la province de Maïndombe s'exprime au téléphone de Irène Mboma.
Tout citoyen congolais est libre de vivre partout là où il veut et c'est dans le strict respect des lois que regorge notre République. Et donc, je demanderai à nos frères de Kwamoutou, essentiellement de Teke, d'accueillir leurs frères Yaka, de vivre en paix avec leurs frères. De l'autre côté, je demanderai à nos frères Yaka, responsables de certaines fermes en territoire de Kwamoutou, de ne pas réclamer de venir certaines autorités coutumières. Au chef coutumier qui est à la base de cette surtaxation des taxes qui est essentiellement Teke, d'éviter ce dérapage qui amène à l'insécurité. Je leur demande d'œuvrer dans l'amour. Nous tous, nous passerons et la terre restera. Je demande à tout le monde de contribuer chacun en ce qui le concerne afin que la paix revienne dans le territoire de Kwamoutou. Et enfin, à la haute hiérarchie, j'ai formé le vœu d'avoir un effectif de militaires si efficace avant que le mal n'arrive.
Province de l'Ituri, le manque d'emploi et l'instabilité due à l'activisme des groupes armés sont des facteurs majeurs qui poussent des jeunes à vivre dans la précarité. Hier, des centaines de jeunes de Bounia se sont retrouvés autour de l'ONG Les Rébâtisseurs pour réfléchir sur des voies de sortie. À l'issue des échanges, les participants ont souhaité voir le gouvernement accompagner plus leurs initiatives, notamment appuyer des projets de l'entrepreneuriat, ce qui pourra diminuer le taux de chômage, mais aussi dissuader les jeunes à ne pas adhérer aux forces négatives. C'était à l'occasion de la Journée internationale des jeunes, célébrée le 12 août de chaque année. Des détails dans ce reportage de Clarisse Zindula.
Les leaders et représentants des jeunes venus des 24 quartiers de la ville ont participé à cette conférence débat. Plusieurs délégués des jeunes, dont certains sont venus de l'intérieur de l'Ituri, ont pris part à cette rencontre. Une occasion pour ces jeunes d'interpeller leurs pères, notamment ceux qui sont dans les rangs des groupes armés, sur leurs responsabilités face à la crise sécuritaire qui affecte cette province. Eugénie Fouambé, une des participantes.
Aujourd'hui, nous avons voulu à ce que tout le monde quitte de la brousse de façon que nous soyons ces jeunes-là qui seront considérés comme modèles.
Mais pour le président du Conseil provincial des jeunes en Ituri, le gouvernement est le premier responsable des conditions de précarité dans lesquelles vivent actuellement les jeunes de cette province. Janté Kaniki demande au gouvernement d'avoir une politique d'emploi pour que cette jeunesse soit aussi motivée pour accompagner l'État dans sa démarche de restauration de l'autorité de l'État.
Nous avons compris que la jeunesse est abandonnée dans ce triste sort parce que le gouvernement jusque-là ne prend pas en considération les préoccupations de la jeunesse. Que le gouvernement puisse vraiment prendre ses responsabilités pour que nous puissions aussi prendre notre responsabilité et que notre province avance.
Les autorités locales et les députés ont également pris part à cette rencontre. Contre Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Province du Maniema, ce SOS du directeur de l'école primaire Fataki, situé à 68 km de Kindu, secteur de Beia, territoire de Pangui, y demande de l'aide aux autorités en faveur de son école avant la rentrée scolaire qui s'approche. Construite en 2012 sur fonds social de la RDC avec une capacité d'accueil de 270 élèves, l'école primaire Fataki accueille à ce jour plus de 600 élèves venus de 6 villages environnants. Son directeur plaide pour l'ajout des salles de classe, les bancs pupitres, ainsi que les manuels scolaires avant la rentrée. Kasseme Bakwamponga François l'a dit à Florence Kiza.
Où ça semble marcher, sauf l'école a une grande difficulté de la croissance d'effectifs d'élèves. L'école compte 628 élèves et nous avions connu cette construction à l'an 2012. Actuellement, nous sommes dotés de 8 classes. Lesquelles classes demandent la construction et l'augmentation de meubles. Au sein de cette école aussi, il y a un centre d'ENAFEP. Lorsque les élèves viennent, ils viennent beaucoup d'élèves. L'école est dotée de 16 écoles qui passent l'examen ENAFEP. Au niveau d'ici même. Et lorsque les enfants viennent, il vous manque aussi des places pour s'asseoir. Je demanderai aux autorités de pouvoir nous assister, intervenir à tous ces dégâts-là. L'insuffisance des locaux, l'insuffisance des bancs pupitres, et il y a aussi des manuels qui nous manquent, comme les dictionnaires. Nous exploitons les manuels difficilement, et surtout en français. Vu que l'école jouit de la gratuité, l'intervention rapide souhaiterait, parce que les enfants peuvent étudier dans des conditions difficiles. Et comme on va démarrer l'année 2022-2023, il serait probable de pouvoir nous venir en aide dans l'opportunité du temps.
Restons en Maniema pour signaler l'arrivée dans le territoire de Pangui de plusieurs délégations pour la cérémonie de remise officielle des cartes participatives et plans simples d'aménagement du territoire. Cette activité est réalisée par la communauté locale avec l'appui des services étatiques et du PIRED Maniema, a été exécutée par la GIZ dans 3 villages dont Mambwe, Kindikimozi, Lutala et Fataki. Cette cérémonie a lieu ce samedi dans le village Mambwe, 68 km de Kindu. La remise de ces cartes participatives est un ouf de soulagement pour l'administrateur du territoire de Pangui, René Kakenye, l'a dit au micro de Florence Kiza.
Des nefs ici dans mon entité, c'est la présence de GIZ, PIRED Maniema, pour les différentes activités de développement. Cette activité, pour moi, a comme le sens d'aider, de promouvoir l'économie de la population. Je demande à la GIZ de ne pas s'arrêter en cours de route, d'accompagner ma population jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au bout de cette activité. C'est bénéfique à la population du fait que c'est une forêt qui est en réserve pour toute la communauté. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs activités qui seront exploitées dans cette forêt-là. Ça va donner quelques rendements à la population.
Actualité, Afrique Monde.
Les appels de fonds des Nations Unies pour leur mission humanitaire font face à un déficit record, a déclaré l'ONU hier, mettant en garde contre les risques croissants encourus par les travailleurs humanitaires. L'agence humanitaire de l'ONU, OCHA, a déclaré que les appels de fonds onusiens en faveur de ces programmes d'aide dans le monde entier s'élevaient désormais à 48,7 milliards de dollars, mais que seuls 15 milliards de dollars avaient été effectivement versés à ce jour. Les besoins mondiaux n'ont jamais été si élevés, avec un nombre record de 303 millions de personnes dans des situations de crise dans le monde, a dit à la presse à Genève le porte-parole de OCHA.
L'invité.
Nous sommes au sud Kivu. Le ministre provincial des Mines, Ressources hydrauliques et Hydrocarbures annonce la création d'un nouveau service dénommé Régie provinciale de services publics de l'eau dans la province du Sud Kivu. Annonce faite dans un point de presse tenu jeudi à Bukavu par le ministre provincial Koko Chirimwami Hakim. C'était à son retour d'une mission de service à Kinshasa. Koko Chirimwami aborde aussi le sujet en rapport avec le démarrage de l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers dans le sud qui vous régorge. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le ministre provincial des Mines et des Hydrocarbures, bonjour.
Bonjour, merci, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qui a motivé qu'aujourd'hui vous invitiez la presse?
Nous avons invité la presse aujourd'hui, c'est pour mettre à la disposition de la population les informations selon lesquelles il y a eu une réforme d'un service public de l'eau qui a créé un nouveau service qu'on appelle la Régie provinciale des services de l'eau en province, qui est différent, c'est vrai, de la Régie des eaux, mais ça s'est créé au niveau de la province, de toutes les provinces, même au niveau des ETD. Et cela, il fallait que la population soit informée.
C'est un projet qui entre dans le programme de développement des territoires.
Effectivement, c'est la réalisation de la vision du chef de l'État, servir la population en eau potable. Dans des entités territoriales, même dans des villes, on nous pose souvent le problème de l'eau potable. Et la quantité, il n'y en a pas, et la qualité n'est pas bonne. C'est pourquoi, en faisant cette réforme, ça va aider à ce que la population ait quand même de l'eau potable et de l'eau de qualité.
Un autre sujet d'actualité et qui concerne votre secteur, c'est l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers. Quelles sont les potentialités que présente la province du Sud Kivu?
Pour la province du Sud Kivu, nous avons 3 blocs gaziers et 2 blocs à pétrole. Les blocs à pétrole se trouvent à Uvira et à Baraka, et les blocs gaziers se trouvent à Makelele, à Luanjovu et à Idji.
Makelele, Luanjovu, c'est où pour les communs de mortels?
Pour ceux qui ne savent pas, Makelele et Luanjovu se trouvent dans le territoire de Calais, précisément dans les groupements d'Mbinga Nord, dans le lac Kivu, effectivement.
Comment va alors s'opérer l'exploitation de ces blocs, les blocs gaziers notamment?
Nous avons demandé que les études soient d'abord respectées, c'est-à-dire l'étude d'impact environnemental. Il doit d'abord mener les études avant de commencer l'exploitation, mais aussi on a insisté sur les études sociales et économiques. Parce que comme vous le savez, la population riveraine du lac Kivu, ils vivent de la pêche et il faut les transports sur le lac Kivu. Quand l'exploitation va commencer, je pense qu'à un moment donné, on va suspendre dans certains endroits du lac qu'on ne pratique plus la pêche. Mais alors, les transports, on va limiter peut-être de certains endroits là où on va pratiquer les transports de ceux-là qui naviguent dans les lacs Kivu. Et c'est pour cela que nous avons demandé qu'on respecte toutes les procédures avant de commencer à exploiter.
La population espère beaucoup de cette innovation. Quels sont les avantages qu'elle va pouvoir y tirer?
Oui, les avantages pour la population, c'est que le gaz que nous avons dans les lacs Kivu ici n'est pas exploité. Mais les voisins du Rwanda, ils exploitent le gaz et ils le vendent même dans d'autres pays. Et donc pour nous, c'est l'économie qui va augmenter, parce qu'on va commencer à exploiter, ils vont payer les taxes, mais aussi nous avons notre jeunesse qui est sans emploi, qui vont profiter aussi du travail. Parce que selon certains partenaires, ils ont dit qu'ils vont employer plus de 300 personnes. Tout ça, c'est de la jeunesse qui va sortir du chômage. Mais aussi, quand on va maintenant commencer à commercialiser ce qu'on va produire, on ne sera plus en train de couper les arbres pour faire les bois de chauffe ou les braises. Et l'environnement sera maintenant protégé. Et nous, on va commencer maintenant à utiliser les gaz pour nos travaux ménagers. Donc, c'est une opportunité pour notre province, parce que une fois l'exploitation commence, c'est de l'emploi que nous allons avoir, c'est de l'énergie et du pétrole à moindre coût.
Les entreprises exploitatrices sont-elles congolaises?
Ils ne se sont pas encore manifestés, mais il y a ceux-là qui veulent maintenant venir. On ne sait pas encore dire que voilà, les exploitateurs seront des Congolais ou des étrangers, mais je sais que parmi eux, il y aura aussi des Congolais. Il peut venir une entreprise qui vient de l'étranger, mais qui va engager les Congolais pour travailler.
Êtes-vous déjà fixé sur les débuts des travaux?
Le chef de l'État, il a donné un moratoire de 3 mois pour ceux-là qui veulent travailler dans les gaz. Et pour ceux-là qui veulent venir dans le pétrole, il a donné un moratoire environ de 7 mois.
Votre mot de la fin, monsieur le ministre?
Le mot de la fin, c'est que nous encourageons tous les partenaires, tous celui-là qui veut intervenir dans ce secteur ici, parce que nous avons les gaz dans notre lac Kivu, nous avons le pétrole à Uvira et à Baraka, même à Shabunda, il y a aussi du pétrole. Et donc, nous avons des potentialités chez nous, mais qu'on n'exploite pas. C'est-à-dire que si nous exploitons ce que nous avons comme potentialité, richesse chez nous, ça va aussi nous aider à élever un peu l'économie de notre pays et nous allons aussi avoir de l'emploi.
Merci beaucoup.
Le ministre provincial des Mines, Ressources hydrauliques et Hydrocarbures du Sud Kivu s'entretenait avec Jean Kassami. C'est la fin de ce journal supervisé et coordonné par Alain Rong Mouchinj, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.